Notre exposé s'intitule donc « Écrit du fort privé et internement pendant la Première Guerre mondiale ». Je voudrais commencer par en introduction vous rappeler un peu la situation de l'internement en France et, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe et au moment de la Première Guerre mondiale. C'est une thématique qui a été en France essentiellement étudiée par Jean-Claude Farcy, donc un historien spécialiste des camps de concentration et du phénomène concentrationnaire au XXe siècle en France. Et dans son ouvrage, il précise, dans son ouvrage intitulé « Les camps de concentration français 1914-1920 », il précise donc plusieurs éléments que je tenais à souligner. D'abord, donc, il existait donc véritablement une politique d'internement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle en France qui avait différents buts, notamment donc, d'interner pour évacuer une partie de la population perçue comme étant soit des bouches inutiles, je cite Jean-Claude Farcy, ou des étrangers. Et au moment donc de la mobilisation, du déclenchement de la guerre, ces évacuations vont se transformer rapidement en fait en internement pour plusieurs raisons. Du fait d'abord du nombre, donc la population concernée était bien plus importante que celle qui avait été anticipée par les autorités. Du fait que cette évacuation a eu lieu en fait dans des conditions la plupart du temps déplorables, et voire on a des récits de ces évacuations qui font état donc, de conditions vraiment inhumaines. Elles impliquent aussi une forte surveillance policière, donc c'est ajouté à l'évacuation une dimension policière importante, et des tentatives d'évasion aussi de la part des personnes concernées. Donc on va passer d'un système d'évacuation à un système plus policé et plus surveillé. Jean-Claude Farcy parle donc de phénomène concentrationnaire qui l'oppose au système concentrationnaire. Il n'est pas question de rationalisation ou de camps de concentration tel qu'on a connu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il les distingue vraiment fermement. Cependant, il tient, et Jean-Claude Vimont qui a aussi travaillé sur cette thématique et nous-mêmes qui nous y concentrons depuis plusieurs années, a utilisé ce terme de camp de concentration parce que c'était le terme employé par les contemporains, que ce soit par les autorités préfectorales, du ministère de l'Intérieur, mais aussi par les contemporains, c'est-à-dire la presse, par exemple, quand elle écrivait des camps, les journalistes écrivaient des articles sur ces camps, elle parlait bien de camps de concentration. Il faut distinguer, mais malgré tout cela s'inscrit dans une matrice qui nous semble importante de garder en tête. Ensuite, donc, on peut voir que c'est dans ces camps de concentration, si vous voyez sur cette carte-là, ils sont concentrés géographiquement dans l'ouest et le sud-est de la France, tout simplement pour que ces personnes soient le plus éloignées du front possible et des frontières des pays ennemis. Et ensuite, donc, Jean-Claude Farcy a proposé une typologie de ces camps d'internement et de concentration que j'ai reprise ici. Différents types de camps, bon, on pourra revenir dessus, hein, et nous allons donc nous concentrer sur un type de camp qui est ce qu'on appelle un camp de famille, qui était situé donc ici dans le sud-ouest de la France, dans les Hautes-Pyrénées, le camp des familles de garnison. Alors, pour vous parler brièvement du camp de famille de garnison, le présenter, donc c'était un camp. C'était en fait un édifice religieux assez important, hein, qui maintenant est un établissement scolaire, privé sous contrat, et qui donc au moment de la Révolution française avait été réquisitionné par l'État et qui donc a été utilisé à des fins donc, d'internement de populations ennemies pendant la Première Guerre mondiale. On trouve dans ce camp donc, qui a été donc, utilisé, ouvert assez tôt hein, au moment du déclenchement de la guerre, donc en octobre 14, et qui a été utilisé à des fins d'internement jusqu'en décembre 1919. Au total, donc, Jean-Claude Vimant, qui a vraiment mené un travail de statistique important, a dénombré donc, 2250 personnes qui auraient été internées à garnison au cours de la période, donc, parce que certains arrivés, d'autres ont pu être rapatriés dans leur pays d'origine, d'autres sont restés sur toute la période. il y a eu deux différents cas de figure, sont enfermés dans ce camp, donc des ressortissants de nationalité ennemie, allemand, austro-hongrois, ottoman, italien, et hommes, femmes, enfants qui ont été, pu être arrêtés ensemble ou isolément dans des cas de figure très, très distincts dont on pourrait aussi parler ultérieurement. C'était donc bien un camp de concentration, ma collègue reviendra sur, sur l'aspect vraiment liberticide de ce camp, et on voit ici, donc c'est une photo qui a été prise et qui montre l'appel qui était fait quotidiennement dans ce camp pour vérifier que tous les internés étaient bien présents. C'est aussi, donc ici ce sont des documents qu'on a relevés aux archives de Tarbes, hein, aux archives départementales, et un exemple pour montrer que c'était bien un camp de famille, puisqu'ici vous avez trois fiches individuelles qui concernent donc des membres de la famille Lever, et qui étaient donc trois enfants, puisqu'ils sont âgés de 4, 17 et 10 ans, présence d'enfants dans ce camp. En ce qui concerne les sources que nous avons étudiées, donc c'est ce phénomène concentrationnaire, peut-être étudié avant tout grâce au fond des archives départementales qui contiennent donc énormément de minutes de préfets, qui contiennent donc énormément de documents préfectoraux, mais on a réussi aussi à trouver, à force donc de ce fameux travail de fourmi que vous avez évoqué, certains autres types de documents et qui permettaient de donner la parole aux témoins, aux acteurs. Que ce soit les internés eux-mêmes ou les fonctionnaires de l'administration, les préfets, les sous-préfets, les directeurs de camp ou les riverains, donc, qui ont pu écrire des lettres comme nous le verrons. Nous avons choisi de nous concentrer donc, ici pour cet exposé sur les écrits du portugais. Je rappelle rapidement les définitions, hein, donc, qui est celle utilisée par le groupe de recherche sur les écrits du portugais en France, du CNRS. Donc ce sont tous les textes qui sont produits en dehors des institutions et qui témoignent d'une prise de parole personnelle d'un individu sur lui-même, les siens ou sa communauté. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'exclure, dans le cadre de cet exposé, les lettres des préfets, puisqu'ils représentent avant tout souvent leur fonction, donc l'institution préfectorale. Et nous tenions à souligner donc, dans le questionnement sur les gens ordinaires ici, donc... qui tombe vraiment, qui est cohérent avec l'idée du fort privé, mais que dans ce camp, toutes les classes sociales étaient représentées. Donc c'est intéressant aussi de se poser la question des gens ordinaires, est-ce que ici ce ne serait pas par opposition juste à l'institution ? Les sources que nous avons utilisées et trouvées, donc, ce sont des correspondances, des journaux intimes, un journal de camp, mais on n'a pas trouvé d'exemplaire, il est évoqué dans des documents, mais malheureusement pour l'instant, nous n'avons pas la trace. Et on peut citer aussi l'autobiographie d'Albert Schweitzer qui a été donc, interné à Garaison et qui évoque son internement en Garaison dans sa autobiographie. Ceci, juste, ce sont donc les extraits des journaux intimes donc, de deux femmes qui ont été internées à Garaison et que, donc, avec notre collaborateur, nous avons traduit les extraits. On va le faire passer si vous voulez. Voilà. Donc nous, ce qu'on va essayer de vous montrer ici, c'est donc dans quelle mesure ces témoignages étudiés permettent d'inscrire le camp de Garaison dans la matrice du phénomène concentrationnaire du XXe siècle en France, en essayant d'éviter l'écueil de la théologie, mais aussi de l'anachronisme. Et pour cela, donc, ma collègue va étudier en plus particulièrement le lien entre internement et culture de soi et le camp vis-à-vis de la population locale.
Bien, donc concernant la perspective des détenus, je vais revenir avant tout sur l'impact de la privation de liberté qui est très fortement illustré dans ces écrits. Tout d'abord, les deux journaux personnels que nous avons traduits et publiés nous font découvrir vraiment le quotidien du camp. Les allusions sont faites très précises aux corvées, aux appels quotidiens, aux cachots. Et donc nous avons une citation ici de Gertrude Kumner qui dit « Hier, pour la première fois, une femme de la colonie allemande a été punie de 4 jours de prison car elle avait passé outre l'interdiction expresse du commandant de ne pas allumer dans sa chambre un petit poêle à bois. » Et Helene Scharschmidt, donc l'autre détenue dont nous avons traduit le journal, la prison des femmes était un réduit froid et humide sous l'escalier avec une minuscule fenêtre. Donc voilà, des éléments donc, sur le quotidien de la vie difficile, des conditions de vie difficiles dans le camp. Un autre élément qui ressort très clairement de ces journaux, mais comme des lettres de détenus dont nous parlerons après, c'est le caractère arbitraire de l'internement. Ici, Gertrud Comnot souligne, de temps à autre, des personnalités importantes de la région, telles des officiers, des préfets, des médecins militaires, etc., viennent à Garaison pour voir la colonie allemande, et notre commandant tient alors beaucoup à présenter à ce prestigieux public les bêtes de cirque teutones, la bride sur le front, pour leur prouver sous quel admirable joug il maintient toute cette société. Et Hélène Scharschmidt, de son côté, qui souligne, le lieutenant profitait en tout cas de ces occasions pour montrer, par des cris, des insultes et des crachats à tout vent, qu'il appartenait à une race plus élevée que celle des sales gauches. Donc, on a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de souligner cette, la difficulté des conditions de vie, mais il faut également faire remarquer que ces deux journaux personnels donnent aussi un autre aperçu de la vie dans le camp, à savoir une véritable vie quotidienne qui se met en place sur ces années, avec les professions qui se redéveloppent, les artisans qui se remettent à produire. Elle parle également des randonnées qu'elles peuvent effectuer lors des permissions d'après-midi qu'elles ont. Il s'agit là d'un complément d'information qui nous semble important, car il nous rappelle cette autre réalité des camps d'internement de la Première Guerre mondiale. Donc l'aspect d'une certaine persistance, d'une forme de liberté ou d'une certaine marge de manœuvre des détenus au sein du cadre de la privation de liberté. Au-delà, les dossiers individuels des détenus que nous avons pu consulter aux archives de Tarbes rassemblent, et ça c'est vraiment une chance pour les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur le témoignage et sur les écrits de fort privé, rassemblent toute la correspondance confisquée par l'administration du camp. Nous avons donc là affaire à des récits du fort privé qui s'inscrivent entièrement dans le contexte de l'internement. Et certes, nous ne pouvons là nous appuyer que sur ceux et celles qui ont effectivement produit les écrits. Donc nous ne pouvons en tirer de conclusions que sur ceux qui ont eu la possibilité de s'exprimer. Et ce sont sans doute ceux qui étaient les moins défavorisés et qui avaient les conditions de détention les moins pénibles. Quels sont ces types de témoignages? Il y a tout d'abord les lettres de détenus écrites à leurs proches et qui sont confisquées. Donc un type d'écrit très, très répandu. Ces écrits expriment une énorme frustration, une énorme incompréhension de la part des détenus. D'autant plus, il faut le souligner, le rappeler, qu'un grand nombre d'entre eux sont des personnes qui résidaient depuis parfois 40 ans déjà en France et qui n'avaient plus aucun lien avec leur nation d'origine. Un autre cas de frustration particulièrement fort, c'est celui ressenti par les Alsaciens lorrains, qui sont également souvent détenus. Eux sont non seulement privés de liberté, mais ils sont également considérés comme suspects particulièrement suspects par la direction, et également considérés comme suspects par une partie des co-détenus. Donc, on est dans une situation particulièrement difficile. Je cite ici la lettre d'Edouard Spitz à ses parents en août 1915, où il dit notre traitement est abominable et jamais je n'aurais pensé que l'on pouvait, au XXe siècle, interner de la sorte des personnes innocentes. Un autre sujet qui transparaît dans cette lettre, comme dans beaucoup, c'est à nouveau l'arbitraire des conditions de détention. Notamment lorsque Edouard Spitz souligne que la condition des détenus dépend très fortement de l'humeur et des bonnes volontés du commandant. Et il dit là, malheureusement, le traitement dépend totalement de notre directeur, qui est un homme brutal, un monstre, on devrait même plutôt dire monstre que homme. Et en général, on peut juste noter, entre parenthèses, qu'il y a peu d'éléments pour revenir sur ce que vous disiez précédemment, sur le conflit lui-même. Ça semble lié, bien sûr, au contexte de censure, mais le conflit lui-même, les batailles sont peu présentes. D'autres types de témoignages de récits du corps privé, les requêtes que les détenus envoient à des organisations internationales, comme la Légation suisse ou l'ambassade américaine. Mais également d'autres écrits du fort privé qui expriment d'une autre manière le refus de la privation de liberté. C'est les plans d'évasion qu'on peut trouver qui sont confisqués et les cartes postales d'évadés envoyées aux anciens co-détenus. Voilà, je ne m'en pas. Euh, c'est la dernière partie. Pour revenir sur la deuxième, le deuxième pan sur lequel on souhaite revenir, c'est la perspective des riverains, donc, qui est vraiment le miroir de la ségrégation sociale et spatiale qui se met en place au niveau local avec l'implantation de ces camps. Alors, c'est, les écrits de ces riverains sont souvent des lettres de délation, des lettres qui, dans lesquelles les riverains se plaignent du comportement des détenus lorsqu'ils sont en permission. On a notamment là le cas d'une lettre d'un riverain qui détaille comment il a espionné de près les visites amoureuses d'un détenu allemand chez une femme dont le mari a péri au front. Donc là, il crie à la trahison du soldat qui s'est sacrifié et à la trahison envers la patrie et exige la suppression de la pension de la veuve. On remarque également que cette délation ne se vise pas seulement les détenus. Au contraire, on trouve également des plaintes auprès du préfet au sujet du train de vie des commandants du camp. Alors, qui, selon les lettres des riverains, mènerait beaucoup de relations peu professionnelles avec les détenus, ne respecterait pas les restrictions de guerre. Et on a une lettre qui est quand même, qu'on va pas citer, qui est parmi les trouvailles assez savoureuses dans nos archives, où un riverain se plaint en faisant l'écho d'une orgie. Qui aurait eu lieu dans le visage voisin, la femme de la lettre. Donc, il évoque toutes les personnes qui ont participé à cette soirée organisée par le commandant du camp, donc des détenus, de haut rang notamment, et il finit en disant « Ce fut une soirée d'orgie, le piano de M. Noguès, donc l'aubergiste, fut brisé, M. Brau portait une clochette suspendue entre ses jambes, le comte de Buglaire, dans une tenue indécente, dansait des danses arabes, j'en passe, et du menu. » Je vous rappellerai aussi les fréquentes promenades en auto pour montrer qu'il abuse des services, notamment de son véhicule professionnel. Sur ce point-là, les promenades du camp du commandant avec certains détenus, il est intéressant de mettre en regard les éléments qu'on a dans des lettres de délation comme celle-ci et dans les journaux personnels. Il faut savoir que Gertrude Kumnin, à un moment, fait également témoigne de. Rappelle une de ses escapades où elle explique qu'un grand honneur est également échu. Monsieur le commandant m'a invité à une sortie en voiture jusqu'à Mont-Léon. Les plaintes de la population, elles témoignent de la perplexité, du malaise, du mécontentement qu'a pu susciter au niveau local l'installation inopinée de camps de détention. Mais cette suspicion a été au moins en partie, on peut l'imaginer, compensée par l'intérêt économique que représentaient ces camps. Et sur ce point-là, on remarque, on peut également étudier d'autres types d'écrits qui sont des requêtes économiques de la part de la population environnante, d'exploitants agricoles, de gérants d'entreprises qui souhaitent pouvoir, pour lesquels cette population arrivée est une potentielle main-d'œuvre de remplacement qui leur permet de compenser le manque généré par la mobilisation. Donc on remarque par le biais de ces témoignages comment les détenus ont pu en temps de guerre devenir véritablement une classe ouvrière de troisième zone. Donc là aussi, il est intéressant de mettre en regard les témoignages de la population et des détenus qui, eux, de leur côté, envoient des plaintes au commandant de camp au sujet de leurs conditions de travail absolument difficiles aux alentours. Conclusion, très rapidement juste sur ces témoignages, ils posent la question du conflit de nationalité, c'est un premier élément de conclusion, sur lequel on n'a pas pu revenir plus en détail, et ce qui nous paraît très important, révélateur, c'est à quel point ce conflit de nationalité, par les différents témoignages, il apparaît exacerbé ou instrumentalisé en temps de guerre. Et les témoignages, en ce sens, illustrent véritablement ce que dit Jean-Claude Vimont, et qui souligne à quel point le classement qui est effectué sur des critères de nationalité et de francophilie était arbitraire dans ces camps. Ça, c'est un élément important. Les témoignages des riverains illustrent l'impact du discours xénophobe, fortement relayé par les médias, et on peut supposer que ce discours xénophobe médiatisé a pu contribuer à tenter de légitimer une politique d'internement qui n'avait d'ailleurs aucune base judiciaire, il faut le rappeler. Voilà, c'est à vous. En condensé, on continuera dans la discussion.
Merci pour cette très intéressante communication et également pour cette illustration du corps privé à travers des sources moins habituelles que celles qu'on connaît. Alors, j'étais vraiment très intéressée, très intriguée par vos récits d'éducativité, les deux que vous avez publiés. Donc, ça fait partie des cris qui ont été saisis, confisqués, que vous avez retrouvés dans les archives préfectorales. Eh bien, ça a donné lieu à publication déjà en Allemagne et vous avez fait l'adaptation, une traduction à la française.
Alors, les deux journaux, donc ces deux femmes, les journaux intimes, ont été publiés pendant la guerre en Allemagne.
Dès leur rapatriement.
En fait, elles ont été rapatriées. Elles sont restées au camp de garnison quelques mois et font partie des personnes qui ont été rapatriées assez rapidement, puisque ce sont des femmes, donc non mobilisables. Donc, elles ont pu demander leur rapatriement, ils l'ont obtenu assez vite. Et elles ont donc rapidement publié en Allemagne chez des éditeurs. Donc, effectivement, c'était plus facile de trouver les.
Oui, une petite question sur la langue. Vous avez donc des correspondances en allemand. Vous avez parlé des Alsaciens lorrains. Est-ce qu'il y a des textes en français?
Alors, c'est un fait très marquant. La plupart des lettres de requête, par exemple, ou de plaintes des détenus sont rédigées en français et en très bon français. C'est pour cette raison que je soulignais en introduction que nous n'avions là que les témoignages d'une certaine partie des détenus qui avaient la possibilité de s'exprimer dans un français impeccable, ce qui donnait à leur requête un poids plus important. Il y a certaines lettres qu'on a trouvées dans d'autres archives qui sont vraiment, je crois que c'était des anciens légionnaires qui sont dans un français beaucoup plus approximatif, voire vraiment phonétique, mais la plupart du temps, c'est un français absolument impeccable.
Et il y avait aussi, ont été internés à garnison notamment, mais aussi dans d'autres camps du sud-ouest, parce qu'il pouvait arriver que les familles changent de camp, soit à leur demande, soit de manière imposée, mais il y a par exemple une institutrice qu'on a retrouvée à Garaison et en Aveyron aussi, qui était française mariée à un Allemand, et donc cette famille vivait, ce couple vivait dans le sud-ouest de la France, et donc ont été internés au moment du déclenchement de la guerre, et donc elle a su jouer de sa nationalité française, permettait de supposer une francophilie qu'en fait, elle a su complètement cacher aussi. Et donc, elle fait partie des gens sur qui il y a vraiment des fiches individuelles assez importantes et une correspondance assez importante, notamment de lettres de requête. Elle écrivait beaucoup au directeur du camp pour obtenir des faveurs, quelles qu'elles soient, notamment quand les écoles pour les enfants ont été recréées au sein du camp, puisque une vie s'est vraiment recréée dans ces camps. Et donc, pour être directrice de l'école, pour enseigner le maximum aux enfants, faisant valoir du coup le fait qu'elle était française et qu'il ne fallait pas laisser les Allemands le faire, alors qu'elle-même était mariée à un Allemand. C'est vraiment ce que disait Lucille, c'est vraiment l'utilisation de la nationalité est vraiment très intéressante. C'est très complexe.
Et bien sûr, sinon lorsqu'ils écrivaient à leur famille, ils écrivaient dans leur langue, mais il leur était demandé d'écrire de façon très lisible pour que les censeurs, à savoir les instituteurs du village, puis de la région, puissent lire, censurer, et ils avaient des problèmes quand il s'agissait de langue, moins représentante, l'hongrois, le bulgare.
Très rapidement. Merci beaucoup. J'en ai appris encore plus parce que je voyais déjà attention à le projet. Je suis à Toulouse, je suis aussi partie du CREG, mais je me demandais, est-ce que dans les écrits, vous avez trouvé des informations par rapport au rapprochement peut-être entre différentes classes sociales? Depuis là, le critère, c'est la nationalité, non plus, différentes classes sociales, vraiment sur un... lieu très, enfin, très restreint. Est-ce qu'il y a des échanges? Quelles sont les interactions peut-être?
Très rapidement, vraiment en interaction. La hiérarchie sociale était complètement reproduite au sein du camp et les personnes les plus âgées, plus aisées, pardon, pouvaient faire des demandes, justement des requêtes, pour être changées de camp et pour entrer dans ce qu'on appelle des camps de faveur. Donc il y avait des camps où on était mieux traités. Et par exemple, quelqu'un comme Albert Schweitzer, qui a été relativement bien traité, avec des énormes guillemets, il a pu bénéficier avec sa femme d'un vrai petit appartement au sein du camp de Paris. Il y avait quand même des types de logements, de traitements qui étaient très variables d'une classe sociale à l'époque.
Tout à fait. Merci. Un petit goûter nous attend.